I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast An Eye On You. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec un invité bien particulier et on va parler d'un sujet très important dans la santé mentale. Je vous laisse avec la suite, avec sa présentation et je vous souhaite une bonne écoute. Juan, je te laisse te présenter.
Salut à tous, je m'appelle Juan Tandé-Retourné, j'ai 23 ans. Et je suis porteur d'un TDAH, donc le trouble de déficience de l'attention avec ou sans hyperactivité, et dans mon cas, du coup, sans hyperactivité. Voilà.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du TDAH, pour ceux qui ne connaissent pas, même si je pense que beaucoup des auditeurs ici connaissent, mais on ne sait jamais.
Bah écoute, merci de me laisser parler. C'est un sujet qui est très important et encore très peu médiatisé. Trop peu de gens prennent encore la parole. Même si ces dernières années, bien évidemment, surtout grâce à des podcasts, grâce à des émissions, donc merci à toi Jade, t'en fais partie.
De rien.
T'en fais partie, ça commence à se faire un peu plus connaître. C'est tout simplement un trouble de l'attention, en fait, c'est ce qui indique, ça porte bien son nom, pas pour tous les symptômes, parce que j'y reviendrai peut-être après, mais c'est un peu plus complexe que ça. Mais globalement, oui, c'est un trouble de l'attention, de neurodivergence, comme peuvent être les personnes autistes. Donc c'est un fonctionnement, si je peux vulgariser ça, un schéma cérébral en particulier qui fait qu'on en est là, avec un mauvais apport en dopamine dans notre cerveau. Voilà, ça ne marche pas forcément correctement. Je ne suis pas scientifique, donc j'entrerai pas plus dans les détails, mais vous pouvez vous renseigner sur la question et ce sera bien mieux expliqué que moi.
Oui, voilà, je voulais préciser pour l'épisode. Là, j'ai invité Juan pour qu'il nous parle de son vécu, de son ressenti. Donc si jamais vous êtes psy et que vous écoutez cet épisode, c'est normal si on va pas dans les détails approfondis, même si j'en ai déjà parlé de ce sujet avec Juan et il est très calé sur le sujet. Donc j'espère que ça va pouvoir vous renseigner et vous aider si vous êtes dans le même cas que Juan. Mais voilà, écoute, on va passer à la première question. Est-ce que tu peux un peu nous raconter comment tu as su que tu avais ce trouble TDAH, comment tu vis avec?
C'est, on va dire, un peu particulier. Comment je le vis au quotidien, ça va impacter plein de choses. En fait, sur plein de domaines, ça va être... C'est un peu complexe, mais disons que, là j'ai un petit exemple. Aujourd'hui par exemple, j'ai oublié de manger. Tu vois par exemple, on en rigole, mais en fait, des fois on est tellement concentré sur des choses et pas sur d'autres, en fait, qu'on oublie des choses essentielles au quotidien. On va être distrait par énormément de choses, et c'est comme si on avait une sorte de torrent d'idées ou de pensées dans la tête, avec je dois penser à faire ça, mais aussi à faire ça, par exemple, je sais pas, là dans le studio, il y a une plante à côté de moi, je vais me dire, ah bah, il y a une plante, c'est marrant, pourquoi cette plante est là ? Et en même temps, dans ma tête, je vais penser à, ah putain, j'ai oublié d'arroser les plantes chez moi, et en même temps, du coup, ah, il y a autre chose qui me fait penser à ça, enfin, c'est un torrent d'idées, et c'est une effusion de choses constamment qui viennent dans la tête et qui fait qu'on est en permanence distrait, si tu veux.
Et ton cerveau, en fait, il est jamais en pause.
Mon cerveau n'est jamais en pause, non. C'est très fatigant. C'est très très fatigant au quotidien parce que, en fait, il n'y a que quand je dors que mon cerveau est en pause, mais de la minute où je me réveille le matin, c'est mon cas. Après, ça dépend. Chaque personne va ressentir le trouble différemment. Il y a des symptômes qui sont communs, mais il y a aussi d'autres choses, on en reviendra peut-être après, comme les comorbidités qui font qu'on ne vit pas tous le trouble, entre guillemets, de la même manière. Mais oui, dès la première minute où je me réveille, il y a une effusion d'idées dans ma tête qui fait que bah, je suis totalement distrait. Là, par exemple, je viens d'y penser, ça fait une semaine que je dois répondre à ma psy et j'ai complètement zappé. Et en fait, des fois, ça va me revenir par éclair. Mais vu que j'ai un milliard d'autres choses dans ma tête, eh ben, j'y penserai pas non plus. Voilà.
Du coup, qu'est-ce que tu ressens, par exemple, quand tu vois des contenus sur Internet où les meufs sont en mode « faites des to-do list dans votre vie pour être organisée et tout », toi, t'es complètement perdu avec ça.
Si vous savez, enfin... En fait, c'est vrai qu'on parle beaucoup de cette idée-là, des torrents d'idées, c'est comme ça, hein. Encore une fois, c'est de la schématisation. Bien évidemment, on n'est pas sur une explication professionnelle, donc y a des choses que je ne saurais pas non plus expliquer. Mais, vous voyez, là, je me suis perdu.
L'organisation.
Oui, pour l'organisation, c'est ça. Ben, l'organisation, en fait, c'est un peu ce qu'on a dans notre tête. C'est très compliqué de s'organiser au quotidien. C'est très compliqué de faire des choses simples parce qu'il y a des fois où, en fait, on est bloqué dans notre tête et on est comme paralysé. On n'arrive pas à faire les choses correctement. On n'arrive pas à aller au bout de nos idées, de nos projets. Et ça, c'est quelque chose aussi, je fais une petite parenthèse, mais qu'on retrouve chez énormément de personnes TDAH, c'est qu'on se lance sur un milliard de choses, si tu veux, et qu'on ne finit jamais rien, ou qu'en fait, on change très vite de hobby, parce qu'on passe très vite à une autre idée. Pourquoi ? Parce que, si tu veux, c'est en fait, on va trouver un projet qui va nous procurer énormément de plaisir, et vu qu'on a un problème de régulation de dopamine dans notre cerveau, donc... pour ceux qui connaissent pas, c'est une des hormones du plaisir et du bonheur, voilà, avec la sérotonine, on va se concentrer sur ce qui nous en apporte le plus pendant une période. Des fois, je vais me lancer dans un hobby, ça va me durer une ou deux semaines, et en fait, quand ça m'apporte plaisir, et des fois sur des projets tout furieux aussi, hein, je me dis, ah, faudrait que je fasse ça, ce serait génial, je m'investis corps et âme, ça m'est déjà arrivé de dépenser beaucoup d'argent d'ailleurs dans des projets pour au final pas les finir, et en fait, laisser tomber et aller dans d'autres choses, et faire autre chose, me lancer dans d'autres projets, et en fait, à la fin, c'est compliqué parce qu'on finit jamais rien, et du coup, on culpabilise, et c'est un peu une sorte de cercle vicieux. Voilà, problème d'organisation et j'en passe.
En fait, ouais, c'est cercle vicieux quoi. Et du coup, toi, tu parlais de ta psy tout à l'heure, t'as été diagnostiquée de ce trouble ?
Ouais, tout à fait. D'ailleurs, encore une fois, disclaimer numéro 2, on ne peut se faire diagnostiquer que par un professionnel de santé. Un psychiatre, c'est encore mieux. Un médecin, c'est son travail, ou un psychologue qui peut vous orienter vers le diagnostic. En écoutant ce podcast, peut-être que vous vous reconnaîtrez dans certaines choses, mais pour autant, on ne peut pas s'auto-diagnostiquer, ça n'existe pas. Voilà, c'est pas possible.
Merci pour le disclaimer, je voulais vraiment le dire aussi, quoi, parce que c'est vrai que quand tu parles TDAH, moi, il y a plein de TikTok que je vois où les gens font « Vous êtes TDAH ?» Si. Et genre, moi, je suis en mode « Mais je suis TDAH, en fait. Enfin, j'ai un TDAH. » Et du coup, ouais, faut faire attention.
Non, faut faire attention, d'autant que, enfin, en fait, le TDAH, ça peut être marrant, parce qu'on peut être vu comme des personnes un peu loufoques, des choses comme ça, mais c'est un vrai trouble, hein, comme peuvent l'être les personnes autistes, en fait, de manière générale. On est souvent confronté à de faux diagnostics. Enfin, ça prend du temps. Moi, chez ma psy, ça a pris, pour revenir à ce que tu disais, peut-être 4-5 ans avant de réellement poser un diagnostic. Parce que c'est très long et énormément de personnes, en fait, peuvent se reconnaître. Il peut y avoir des caractéristiques du TDAH qui peuvent se retrouver dans d'autres troubles et dans d'autres pathologies, donc c'est très compliqué. Et comme en fait j'ai envie de te dire, tous les troubles mentaux, c'est pas, après le TDAH c'est pas une maladie à proprement parler, j'y reviendrai peut-être aussi après, mais c'est compliqué. Donc ça prend beaucoup de temps, c'est des heures et des heures de remise en question, de se dire « ah oui, il y a ça, etc. » Et moi, oui, avant qu'on pose un diagnostic et qu'on me dise « ah, on pense que t'as ça et vaudrait mieux sur cette piste aller comme ça, enfin faire ça de telle manière », bah ouais, ça a pris quasiment peut-être 3-4 ans. J'ai plus, c'est qu'à un peu plus d'une trentaine de séances chez le psy, quoi.
Et quand tu as eu ce diagnostic, tu t'es senti comment ?
Trop bien. Parce que enfin, j'avais l'impression de comprendre un peu mieux comment mon cerveau agissait au quotidien. Je me sentais moins coupable. Me dire, on m'a toujours dit que j'étais un énorme procrastinateur, chose qui est vraie en fait, mais à cause de ce trouble-là, en grande partie, parce que je sature tout le temps au niveau de mes pensées, au niveau de mes émotions aussi. J'ai des gros problèmes de dysrégulation émotionnelle. Je vis vraiment les choses très intensément, dans le positif comme dans le négatif. Et c'est quelque chose qui est complexe, mais je me souviens quand ma psy m'a parlé de ça, et qu'en fait on a confirmé ça peut-être au bout de la deuxième ou de la troisième séance du moment où il y a eu la pose du diagnostic, je suis de suite allé voir des pages en ligne, me dire mais en fait il y a une communauté, il y a des gens qui vivent ce que je vis au quotidien, et en fait on est légitimé à nouveau, on sait ce qu'on a, et c'est juste un soulagement parce qu'on sait qu'il y a des solutions qu'on peut mettre en place, on sait qu'on peut aller mieux, on sait qu'il y a certaines organisations à avoir, on sait comment on peut agir, comment faire mieux les choses aussi peut-être, pour mieux gérer notre vie au quotidien. Et voilà, donc c'est un soulagement.
Tu parlais tout à l'heure des comorbidités qui vont avec le TDAH. Est-ce que tu peux nous en parler justement ?
Les comorbidités qui vont avec le TDAH. Alors déjà, qu'est-ce qu'une comorbidité ? Ce mot fait un peu peur, je trouve. Comorbidité, il y a le mot morbide, on se dit mais qu'est-ce que ça peut être ? Ça va être d'autres pathologies associées au trouble, tout simplement. Voilà, ça ne va pas plus loin que ça. Dans mon cas, c'est la dépression. Et c'est le cas chez beaucoup de personnes TDAH également. Un trouble d'anxiété généralisé aussi. Voilà. Donc, ça peut être plein d'autres choses. Il peut y avoir, il y a quasiment 25% des personnes TDAH qui sont aussi autistes. Ça, c'est des choses qu'on sait très peu.
C'est un peu un spectre, en fait.
C'est un spectre. Ah non.
Non.
Le TDAH ?
Ouais.
Ah, pas du tout.
Ok.
Alors,
des fois, je me dis ça. Est-ce que c'est un spectre, une branche ?
Bah, techniquement, alors, on va entrer un peu plus dans les détails scientifiques. Mais non.
Ok.
Ça peut être une comorbidité et l'autisme peut avoir comme comorbidité le TDAH également.
D'accord.
En fait, c'est comme deux faces d'une même pièce. Pourquoi ? C'est dans la neurodiversité, en fait. L'autisme, c'est un spectre de manière générale où on va retrouver du mal avec certaines interactions sociales, où il va y avoir... j'entrerai pas plus dans les détails que ça, encore une fois, parce que c'est pas du tout ma spécialité. Mais voilà, tu vois, l'autisme, mais c'est pas en fait c'est pas le TDAH.
D'accord.
Mais c'est, en fait, il y a des choses qui sont extrêmement similaires dans notre gestion des émotions, notamment dans notre manière de percevoir les choses, dans les questions d'organisation, de sensibilité. Oui, il y a des choses qui se retrouvent, c'est pas du tout le même trouble et il faut faire attention à faire la différence avec ça. Voilà.
Et du coup, au niveau des comorbidités, toi, ça te touche dans quel sens ?
Alors, les comorbidités, comme je vous l'ai expliqué, hein, c'est. Tout ce qui va avec le trouble, c'est d'autres pathologies associées. Moi, dans mon cas, c'est la dépression, un trouble d'anxiété généralisé aussi, et d'autres petites choses. Mais disons que, en fait, le TDAH, c'est un package de. On va faire simple, encore une fois, où il y a plusieurs choses qui se passent. Dans notre cerveau et au niveau de la dysrégulation émotionnelle, au niveau de ce que ça peut causer et au niveau de notre ressenti, de la manière dont on vit les choses, bah parfois du coup ça peut entraîner une certaine forme de culpabilité. On est plus à même également d'avoir des addictions, des troubles du comportement alimentaire parce que, encore une fois, problème de régulation de la dopamine, donc on va chercher à aller vers tout ce qui nous procure du bonheur. Et là, en l'occurrence, c'est vers un cookie. Ça qui est génial parce que vous ne le voyez pas, mais c'est formidable. Non, mais pour en revenir plus sérieusement, c'est vrai que je fais un petit aparté sur ça, mais moi, la dépression m'a énormément touché. Dis-toi que il y a eu déjà dans ma tête, c'est un bordel pas possible. C'est très complexe au quotidien. Sauf qu'en fait, quand c'est un tourbillon d'émotions négatives, avec des pensées qui sont du coup négatives en plus, c'est un enfer. Et on a l'impression de ne pas s'en sortir. Moi, j'ai pris, donc je suis toujours d'ailleurs actuellement sous antidépresseur à cause de ça. J'ai eu plusieurs épisodes dépressifs. Et avant qu'on bosse le diagnostic, d'ailleurs, je me suis peut-être dit, est-ce que je suis seulement dépressif? Est-ce que je suis peut-être bipolaire? Je ne savais pas, en fait. Et je me suis rendu compte, et c'est ce que ma psy m'a expliqué, que le TDAH donc, peut entraîner certaines choses au niveau de notre dysrégulation émotionnelle, dont là, la dépression, en l'occurrence, le trouble de l'anxiété généralisé également, parce que c'est pas évident, voilà, c'est des idées noires, c'est du stress quotidien, c'est énormément de culpabilisation. J'ai déjà eu d'ailleurs des pensées suicidaires, pas d'envie suicidaire, mais des pensées suicidaires, et c'est très complexe parce que quand on voit tout en noir comme ça, c'est un enfer, c'est très dur à vivre au quotidien. Et heureusement, ça va mieux. Maintenant, je suis bien traité, je suis bien suivi. J'étais pas forcément épanoui non plus dans ma vie personnelle, mais ça va bien mieux depuis quasiment un an. Enfin, 6 mois peut-être. Et donc voilà, on arrive à mieux réguler les choses. Mais c'est un peu un parcours du combattant, quoi. Voilà.
Et quand t'étais en dépression, enfin, du coup, tu es toujours sous antidépresseur, comment ça se passait dans ta vie ? Avec ce trouble, c'était, du coup, tu parlais d'émotions décuplées dans ta tête.
Moi, la dépression, en fait, ça m'a frappé. Ça m'a frappé deux fois. Une fois en 2019, une première fois, où j'ai fait un épisode dépressif de 4 mois. Et j'ai réussi à m'en sortir sans antidépresseur. J'ai réussi à aller un peu mieux. Et en fait, ça s'est manifesté avec énormément de troubles anxieux. Et la multiplication des émotions négatives, notamment par rapport au TDAH en lui-même. Et celle de l'année dernière, en fait, ça fait suite à un burn-out. Et petit à petit, en fait, je me suis engouffré dans une sorte de noirceur qui a été très complexe à définir parce que c'était bien plus puissant que la première fois où je l'ai vécu, si tu veux. Et en fait, on sombre dans une sorte d'abysse pour schématiser pour les gens qui ne seraient pas forcément familiers avec la dépression, même si on s'imagine toujours ce que c'est. Mais c'est comme s'enfoncer dans des sables mouvants, et en fait, on ne se rend pas compte de suite.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Qu'on s'enfonce, et une fois qu'on s'en rend compte, eh ben pour s'en sortir, bonne chance. Et c'est très compliqué au quotidien, ça va être sur l'hygiène, l'hygiène de vie, l'hygiène alimentaire, notre goût pour les choses, pour les sorties. Moi, ce qui m'a surtout touché, en fait, c'était d'énormes crises d'angoisse aussi qui allaient avec ça, parce que le trouble anxieux qui allait avec, et ça a été le plus prenant. Mais des fois, c'est juste plus envie de souffrir aussi. En fait, c'est comme si notre tête était anesthésiée d'une douleur si forte que on n'était plus capable de rien faire. Et voilà. Et heureusement, les médicaments m'ont vraiment aidé.
Ouais. Et là, aujourd'hui, tu vas mieux ?
Ouais.
Comment tu gères ton TDAH, du coup, au quotidien ? T'es bien entouré aussi ? Ça aide ?
Ouais, moi, je suis vachement bien entouré. Je suis suivi par une psychiatre. Et ça se passe vachement bien. L'essentiel, c'est d'en parler. Après, il y a encore une fois peu de gens qui sont, mais ça, je t'en avais un peu parlé en off, qui sont au courant que j'ai ce trouble-là. Pourquoi? Parce que à chaque fois on doit réexpliquer les choses et que en fait on croit que ça fait partie de ma personnalité et que on croit que je me trouve des excuses alors que non.
Tu crois? Est-ce que tu penses aussi que les gens pensent avec tous les autodiags et tout,
ouais,
le TDAH, c'est,
ouais,
juste
c'est de la
une
merde.
Excuse, quoi.
Mais bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui. Les gens, je pense que les gens pensent que c'est une excuse parce que encore une fois, ça pourrait justifier tout en fait. La fainéantise, notre procrastination, nos blocages, notre manière de faire, nos retards, des fois quand je suis plus jeune, ça c'est quelque chose que j'ai appris à calmer. Mais en fait, c'est la spontanéité aussi. On a toujours envie d'intervenir. On peut pas s'empêcher de couper la parole des fois et tout. En fait, c'est pas volontaire. C'est vraiment pas volontaire. Je le précise aussi. Mais du coup, les gens pensent que c'est du bullshit total.
Mais c'est juste parce que dans ton cerveau, il y a tout un truc qui se fait. Du coup, tu dis, si je le dis pas maintenant, je vais l'oublier.
C'est ça, en fait, je vais l'oublier. Et du coup, je dois faire les choses maintenant. En fait, c'est de la spontanéité. Et c'est comme ça que ça se fait. Ben, moi, dans mon cas, je dis sans hyperactivité, parce que c'est comme ça que je me suis présenté au départ. Physique, oui. Moi, c'est surtout mental. C'est mental, en fait. C'est vraiment un tourbillon constant
tout
d'idées,
se passe dans
de
ton
choses.
Cerveau, quoi.
Tout se passe dans mon cerveau. Et donc, du coup, ça va très, très vite, quoi. Ça va très rapidement.
Et t'es journaliste aussi?
Oui, je suis journaliste.
Dans ton métier.
Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure dans ma petite présentation, mais je suis journaliste, voilà. Comment ça se passe dans mon métier? Alors, plutôt bien. Pourquoi? Parce que, en fait, dans mes études, j'ai appris à faire avec mon trouble et ça se passe relativement bien. Par contre, c'est vrai qu'il y a plein de fois où je ne vais pas forcément... être le plus efficace possible. Si le sujet que je traite ne me passionne pas particulièrement, ça va être un peu plus long, je vais avoir plus de mal à faire les choses, etc. Bon, comme beaucoup de personnes, là en l'occurrence, je pense, hein, c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas. Mais moi, ça va être vraiment compliqué en fait, de me mettre à faire mon métier, tout simplement, alors que je sais bien écrire, je sais bien... Enfin, je suis journaliste télé, pour le coup, donc pour la présentation, etc., ça marche moins bien ce que je dis, mais... c'est impactant, on va dire, dans peut-être les finitions sur mon travail, dans mes relectures. Des fois, je vais faire des fautes d'inattention totalement. Je vais me dire, ah oui, non, mais ça, je devais le faire, je devais le traiter. Ou ça m'est déjà arrivé d'oublier de rappeler des invités, oui. Des choses comme ça. Alors, oui, bon, ça, c'est un peu compliqué.
Ça, oui, en fait, c'est ton cerveau est constamment en ébullition. Donc, en fait... Oui, même faire une to-do list, ça te...
Non, mais la to-do list, en fait, ça fait juste faire... ça nous fait l'effet inverse. Ça te fait culpabiliser parce que tu vois tous les trucs que t'as pas fait et tu dis « Ah, merde !» Mais en fait, tu peux t'organiser autrement.
Oui.
Enfin, sur le boulot, je le vois. Moi, en fait, j'ai la chance de faire un métier qui me passionne et je pense que c'est le cas de... quand, en tout cas, t'as un TDAH et une personne qui est pas neurodivergente non plus hein, aura tout intérêt à faire un métier qui lui plaît, mais nous, vraiment, sur la gestion de la régulation du cerveau et de la dopamine, en fait, ça nous booste à travailler mieux,
ça stimule, en fait.
Et même bien mieux, parce qu'on peut être très concentré aussi sur certaines tâches, ça, c'est des choses que peu de gens savent aussi, on croit que c'est toujours un trouble de l'inattention, mais parfois, on va avoir ce qu'on appelle des hyperfocus, où on va être très très concentré sur une tâche en particulier. Et donc, quand quelque chose me passionne, des fois, je vais pouvoir y passer des heures entières. Bon, des fois, en oubliant de manger, des fois, en oubliant de boire. Après, je me sens pas bien. Je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis un peu fatigué. Je dis, ah ouais, putain, ça fait 8 heures non-stop que je bosse. Et je fais, c'est... c'est un peu compliqué.
Et est-ce que tu as des exemples aussi de moments où ton trouble t'a impacté dans tes relations? Amicale, amoureuse, est-ce que t'as eu des soucis par rapport à ça?
Oui. Amicale surtout. Mes relations amoureuses, pas tant que ça. Je sais que c'est le cas d'autres personnes avec qui, d'autres amis qui sont aussi TDAH avec qui j'ai pu en parler. Mais moi, c'est surtout au niveau amical. Pourquoi? Parce que en fait, comme je l'ai dit, j'oublie plein de choses au quotidien et constamment. Je vais oublier de répondre à des messages parfois, ou parfois je vais lire les messages et je me dis « Ah, il faut que je le fasse dans 2 minutes », et en fait 2 minutes ça se transforme en 2 jours, puis 2 jours en 2 semaines, parce que je fais plein d'autres choses et en fait on culpabilise, et des fois il y a même parfois où j'ai pas répondu à des mois pendant des amis, avec des amis, je sais plus ce que je dis, tu vois. À des amis parce que on se sent même coupable de plus répondre, et tu vois, en fait on repousse toujours et on se dit vaut mieux croire qu'on les ghost que En fait, on oublie juste ça et à chaque fois on doit se justifier, c'est chiant. Et on me l'a énormément reproché. Et après, les gens comprennent. Parce qu'il y a le trouble en lui-même, parce que aussi, bah, quand les gens ne sont pas au courant forcément de mon trouble, moi, on a toujours été très conciliant à mon égard. On se dit, ah, bah, c'est sa personnalité, c'est comme ça. Et j'ai un entourage qui est très bienveillant et j'ai toujours été très bien entouré, donc c'est une chance que j'ai. Après, c'est une chance que n'ont pas forcément les autres.
Oui.
Voilà. Y a des fois où, oui, bien évidemment, ça impacte ce qu'on fait au quotidien. Ça... On parlait du boulot tout à l'heure. En fait, il y a des gens qui changent de job tous les ans, tous les deux ans, même tous les six mois, parce qu'ils sont incapables de travailler et ils sont bloqués en fait dans ce qu'ils font. Ils sont extrêmement malheureux et avec les problèmes de dysrégulation émotionnelle, en fait, la santé mentale après ça va pas du tout. Et c'est très compliqué de se dire j'arrive à trouver un équilibre dans ma vie et moi je suis ravi d'avoir cette chance-là, de faire un métier qui me passionne et en plus de ça d'être bien entouré avec un entourage très compréhensif. Et on va dire une gestion plutôt correcte du trouble.
Ouais, parce que tu parlais de ton burn-out tout à l'heure. Mmh. Justement, il y a eu cette période-là de ta vie. Maintenant, tu as l'air de t'épanouir quand même dans le média où t'es. Tu vis dans un appart là, ça y est, tu te sens trop bien.
On est trop bien.
Mais en fait, le trouble aussi, ça joue par rapport à ton mode de vie à côté. Genre là, quand t'étais en burn-out, comment ça se passait
Disons que je pense que j'ai été en burn-out aussi à cause du... Pas qu'à cause du trouble, ça serait faux de dire ça, parce que le burn-out, en fait, c'est un ensemble de facteurs, de choses qui font que... mais là, en l'occurrence, c'était dans ma gestion des choses et dans ma manière de percevoir le boulot et dans ma manière de gérer ma propre vie, le trouble n'a pas aidé en lui-même. Voilà. Particulièrement au niveau de la gestion de mes émotions, qui ont fait que je me suis engouffré dans une big dépression après. Donc, sympa, c'est toujours très compliqué. Et donc oui, je parlais du burn-out. C'est vrai que un burn-out, c'est jamais facile à vivre. Mais moi, le TDAH a influencé mon burn-out et peut-être que d'autres personnes n'auraient pas craqué dans ma situation, des personnes neurotypiques, dans le sens où en fait tous les facteurs qui se sont cumulés ont été intensifiés par ma perception des choses et ma manière de voir les choses. Donc oui, quand on est bien entouré, dans un cadre de vie professionnel et dans un cadre de vie personnel. En fait, on a tendance à être très productif, à faire bien les choses, bon, même si la gestion du quotidien peut être un peu catastrophique et on a toujours nos moments où ça va pas du tout. Oui, quand en fait il y a plus rien qui va, des personnes, on a peut-être moins les armes que d'autres personnes pour affronter les situations. Et ça, je pense que les gens, il faudrait qu'ils s'en rendent plus compte. Et c'est pour ça que je témoigne aussi aujourd'hui pour qu'on comprenne ça. Voilà.
Et qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui, justement, a ce trouble-là et qui ne s'en sort pas ?
Alors, déjà, deux choses. Moi, il y a une chose dont... Et je suis content que tu poses la question, dont je n'ai pas parlé. J'ai dit que j'étais médicamentée pour ma dépression.
Oui.
Mais je ne suis pas médicamentée pour mon TDAH. Mmh. Alors, pour plein de raisons qui me regardent, mais parce qu'on a estimé à un moment donné que ce n'était pas forcément nécessaire avec ma psy de l'époque, avec ma psy actuelle non plus, parce que j'ai réussi à trouver une méthode qui me convenait bien et que je m'en sors plus ou moins au quotidien, même s'il y a des hauts et des bas, et que je pense très sincèrement qu'un traitement m'aiderait sur plein d'aspects de ma vie. Après, oui, non, pour ça, moi, j'ai fait le choix de ne pas en prendre parce que c'est gérable. Quand ça ne devient pas gérable et qu'il y a un diagnostic qui est posé, faut se renseigner sur des traitements qui existent et qui font votre cerveau va être mis sur pause pendant juste 5 secondes, va vous permettre de mieux réfléchir, va vous permettre d'être plus posé, d'être bien plus concentré aussi sur les tâches que vous effectuez et sur la gestion de plein de choses au quotidien. Et je sais que ça a sauvé la vie, mais littéralement, quand je dis sauver la vie de plein de gens, c'est sauver la vie de plein de gens. N'hésitez pas à en parler. Donc si vous êtes suivi à votre psychiatre, votre psychologue ou votre personnel de santé, même un médecin traitant qui est bien renseigné sur ces questions, je précise, parce que tous les professionnels de santé ne sont malheureusement pas encore sensibilisés aux questions, particulièrement les médecins généralistes, mais parce que pas forcément le temps ni la formation, c'est quelque chose, c'est une question qui est très complexe. Hein, voilà. Donc n'hésitez pas à en parler même à vos proches, voir si vous pouvez mettre des choses ou des solutions en place, à vous renseigner aussi... sans aller jusque à l'autodiagnostic, mais voir comment vous pouvez un peu mieux gérer le trouble, etc., si la pause du diagnostic a été faite. Et vous pouvez vous faire aider de manière chimique, et c'est pas une honte en fait. Et on a cette possibilité-là. Il y a des gens, en fait, le TDAH, c'est un trouble qui est très inconnu depuis quasiment plus de 200 ans, je crois, fin 19e, fin 20e. Ça a été très, très bien documenté, en tout cas dans la recherche scientifique. Donc, il y a toujours des consensus et des divergences dans toute la communauté pour savoir comment naît le trouble exactement, même si on connaît son processus d'action. Ça, c'est un peu plus complexe. Mais n'hésitez pas à vous renseigner, parce qu'il y a toujours une aide qui est disponible, et vous n'êtes pas seul, il y a des communautés en ligne aussi qui existent, de personnes qui ont été diagnostiquées. Vous pouvez envoyer des messages, je pense, à plein de monde, mais la première étape, c'est le cercle très proche, puis ensuite le cercle un peu plus éloigné, puis ensuite le troisième cercle, voilà. Et voilà, mais n'hésitez pas à vous faire aider, s'il vous plaît. Je le dis très sincèrement, c'est pas une honte de prendre des médocs pour tous les troubles là. Hein. Là, je parle pas du TDAH. Ah oui, mais on s'en fout, c'est ça. Enfin, moi, je le dis, je prends des antidep. Les antidep m'ont en partie sauvé sur une période qui était très compliquée, en plus de mon trouble. Il y a pour plein d'autres personnes. Je pense aussi à la médecine moderne qui a permis aux personnes bipolaires d'être stabilisées également. Une maladie qui est encore extrêmement stigmatisée, c'est la schizophrénie. D'ailleurs, ce serait génial si tu pouvais recevoir une personne schizophrène. Pour que les gens se rendent compte de ce que c'est réellement le trouble, mais qui se sont, en fait, grâce à la chimie, en fait, ont vu leur vie être parfaitement stabilisée, même si c'est un trouble qui est très complexe et bien plus dur à stabiliser. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste, mais ce que je veux dire par là, c'est que la chimie, la médecine moderne en tout cas, et toutes les ressources qu'on a actuellement permettent qu'on puisse avoir un cadre de vie qui est meilleur. Alors pourquoi s'en priver ? Voilà. Pourquoi s'en priver ? Et encore une fois, même si vous ne prenez pas de médicaments, vous avez toujours la possibilité de faire une psychothérapie, de parler. Enfin, y a plein de méthodes qui existent pour aller mieux. Donc n'hésitez pas à utiliser tous les moyens que vous avez à votre disposition pour bien faire les choses.
Je pense que on peut finir avec mes questions. Tu as des choses à rajouter, toi ? Mais je pense que c'était intéressant. Après, évidemment, on n'est pas rentré dans tous les détails et tout, mais si tu as quelque chose à rajouter...
N'hésitez pas à bien vous renseigner sur le trouble, à vous renseigner sur des sites un peu plus officiels pour voir exactement quels sont les symptômes du TDAH aussi, parce que là, je suis resté que dans la partie du témoignage. Et si vous voulez des définitions plus claires et plus précises, il y a énormément de ressources qui pourront potentiellement vous aider, que vous pouvez trouver sur Internet ou même dans de la documentation scientifique, et qui explique bien le trouble, les symptômes, parce que c'est vrai que là, on n'est pas entré plus dans les détails, on a plus parlé de ma vie. Donc n'hésitez pas à faire des recherches par vous-même et à échanger avec des professionnels de santé, si vous pensez que vous êtes potentiellement... Si vous pensez être TDAH, n'hésitez pas à en parler à des professionnels de santé.
Merci beaucoup, Juan, en tout cas, pour tes explications hyper claires, et c'était hyper touchant aussi. Merci d'être venu sur mon podcast.
Merci à toi, Jade, ça m'a fait trop plaisir, je suis trop content.
Moi aussi, trop contente. Et puis, évidemment, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles sur Spotify, Apple Podcast, etc., un petit commentaire. N'hésitez pas à partager cet épisode si vous pensez que ça peut aider des gens, mais je suis sûre que ça peut aider des gens, et même renseigner des gens, évidemment. Donc sinon, on se dit à jeudi prochain 9h pour un nouvel épisode. Je vous fais des gros bisous.
Au revoir à tous, merci.
Bye.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands.
Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.